Les Calédoniens rendent hommage à leur défunt ce week-end. Depuis plusieurs jours déjà, les familles se rendent sur les tombes de leurs proches pour prier et se recueillir. Reportage est le début de ce journal. Ce samedi 1er novembre, la ferveur était grande pour les célébrations des messes de la Toussaint. Les fidèles se sont retrouvés nombreux dans toutes les paroisses de Nouvelle-Calédonie. C'est lundi matin que la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, débutera sa première visite en Nouvelle-Calédonie. Son programme a été dévoilé tôt ce matin. La ministre se rendra dans les trois provinces. Un homme de 31 ans a perdu la vie après l'explosion de l'airbag de sa voiture qu'il réparait. C'était le 17 octobre dernier à Marais. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'airbag était de la marque Takata. Le Parti socialiste menace Sébastien Lecornu de censure. Le PS qui ne digère pas le rejet de la taxe Zuckmann cette nuit pour nous par l'Assemblée nationale. Le sport avec du football et du rugby demain matin pour nous, à suivre les premiers matchs de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1 et les premières rencontres de la 9e journée du top 14, à ne pas manquer le choc entre Toulouse et le Stade français. Et puis en Calédonie, un nouveau format d'épreuve, le Jump Swing Run, qui se déroulait ce matin à Dimbé à Rivière. Sur cette course inédite, c'est Jonathan Vinit qui s'est imposé. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les cimetières ont été fleuris pour ce week-end, le mois de novembre, et bien sûr marqué par l'actualité religieuse, particulièrement ce début de mois. C'est en effet aujourd'hui la Toussaint, la journée de tous les saints, et demain, celle qui commémorera les défunts. À cette occasion, Charlotte Coulson, les Calédoniens se rendent dans les cimetières pour rendre hommage à leurs proches décédés.
Un rendez-vous qui est cher aux familles calédoniennes. Chaque année, plusieurs milliers de personnes se rendent au cimetière, les plus fréquentés étant sans doute ceux du 4e et du 5e kilomètre à Nouméa. Les visiteurs viennent rarement les mains vides, un seau pour laver la tombe, des fleurs pour la décorer, une natte pour prier ou pour pique-niquer, à chacun son rituel. Même les enfants s'investissent, car l'enjeu pour ce week-end de la Toussaint, c'est aussi de transmettre la mémoire des défunts aux plus jeunes.
C'est important, c'est pour leur faire comprendre qu'on ne les oublie pas, même s'ils sont sous terre, mais on ne les oublie pas.
Oui, ouais, c'est important, c'est pour venir passer une journée avec eux matin.
Je viens pour mettre des fleurs dans la tombe à ma sœur. Ouais, j'ai amené beaucoup de fleurs, ça me fait du bien. Comme ça, au moins, on va faire la prière avec elle.
C'est important qu'ils sachent que, bah, que les anciens, c'est grâce à eux que nous sommes là et que... On a un devoir de responsabilité vis-à-vis d'eux et puis surtout un devoir de mémoire.
Les cimetières étaient déjà très fréquentés aujourd'hui. Ils le seront sans doute encore demain, car c'est bien le 2 novembre, la journée de commémoration des défunts. À Nouméa, les équipes de la ville se mobilisent pour aider les visiteurs à circuler au sein des cimetières. Mathieu Galéa est chef du service de la vie citoyenne en charge des services funéraires de la ville de Nouméa.
Du monde, comme chaque année, on a eu nos personnes matinales qui étaient déjà là. Donc on ne peut pas rentrer dans le cimetière, c'est pour, bien sûr, je rappelle, pour assurer la sérénité du recueillement. Mais le système de navette est là, pas hésiter à vous présenter à l'accueil. On a même un camion si vous avez des sacs de sable, du gros matériel. On a tout prévu et qui vous amène sur la concession de vos proches. Et s'il y a plusieurs concessions à voir, on vous déplacera de chaque concession à chaque concession. Et puis si vous ne savez plus où est la concession de tonton ou d'une personne de la famille. Dans chaque voiture, il y a un petit QR code, on prend son portable et les agents peuvent aussi vous expliquer comment ça fonctionne pour retrouver la concession.
Les cimetières du 5e et du 4e kilomètre à Nouméa sont ouverts de 6h à 20h et le service de navette actif de 7h à 18h.
La Toussaint qui était également célébrée ce samedi 1er novembre dans toutes les paroisses de Nouvelle-Calédonie, par exemple en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa où la ferveur était grande pour ceux qui avaient fait le déplacement ce matin pour la messe de 9h.
C'est avant tout pour tous les saints qui ont œuvré aussi pour... La parole de Jésus-Christ.
Ils sont présents chaque jour, mais encore plus aujourd'hui. On se tourne vers eux et on leur demande de leur présence, leur prière, la joie d'être avec nous.
Je pense que c'est la fête de nous tous, parce qu'on ne pense pas assez souvent à la sainteté cachée. Il y a des saints cachés.
C'est bien émotionnellement. Ben voilà, on pense à tous nos défunts, nos frères et sœurs. C'est par eux aussi qu'on se confie à Dieu.
Une messe qui était célébrée aujourd'hui en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa par le père François Grossin.
La sainteté, c'est pas une histoire pour hier ou avant-hier, c'est une histoire pour aujourd'hui et demain. Nous sommes tous appelés, pas du fait du baptême et de l'Esprit Saint qui demeure en nous, à témoigner de notre foi et de notre espérance, de témoigner des réalités du ciel et pas simplement de celles de la terre, ne pas avoir les yeux rivés simplement sur un horizon terrestre. Nous avons pour cela l'exemple de tous ces saints et de tous ces saints qui sont reconnus par l'Église et puis qui ont témoigné de leur foi et de leur espérance dans des situations très, très concrètes. et les 7 derniers saints qui ont été canonisés il y a 2 semaines par le pape Léon nous le montrent, alors qu'ils viennent de différents pays, de différentes cultures, etc. La façon dont ils ont vécu, hein, les béatitudes qui sont proclamées chaque année, hein, en cette fête de la Toussaint.
Le père Grossin qui a notamment évoqué l'actualité proche et la canonisation de 7 nouveaux saints, c'était le 19 octobre dernier, parmi lesquels Peter Thorold, le premier saint originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. À 17h50, venons-en à la prochaine visite en Nouvelle-Calédonie de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Visite qui débutera officiellement lundi matin à 9h30. Ce sera place Birakeim, où les honneurs militaires lui seront rendus. Michael Juneski.
Naïma Moutchou se rendra ensuite au Sénat coutumier. Et en fin de matinée, lundi toujours, à Nouméa, la ministre des Outre-mer assistera, place de la paix, à une cérémonie en hommage à Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Lundi après-midi, la ministre s'entretiendra successivement avec Alcide Ponga, président du gouvernement, Sonia Bakès, présidente de la province sud, Sonia Lagarde, maire de Nouméa, et Velma Falaeo, présidente du Congrès. Des entretiens avant une rencontre avec l'ensemble des élus et des institutions de la ville. Ce sera en fin de journée lundi. Mardi, Naïma Moutchou rencontrera à la résidence les différents partis politiques pour une journée appelée, sur le programme officiel de Naïma Moutchou, journée de bilatéral. Pas plus d'informations pour le moment sur cette journée de mardi. Mercredi matin, la ministre des Outre-mer se rendra en province nord où elle visitera une exploitation agricole à Pointe-Bout avant de se rendre à Koné pour échanger avec des jeunes du RSMA, le régiment du service militaire adapté. L'après-midi de retour dans le sud, Naïma Moutchou échangera avec des gendarmes mobilisés en Nouvelle-Calédonie avant de rencontrer l'association Citoyens Mondoriens. La ministre des Outre-mer aura ensuite un échange avec les acteurs économiques du territoire. Jeudi, après avoir visité le camp Est en tout début de journée, la ministre se rendra à Lifou où elle s'entretiendra avec Mathias Voineux et les maires des loyautés. Naïma Moutchou rencontrera ensuite des membres d'associations de femmes, des acteurs du tourisme en Nouvelle-Calédonie et visitera la maison de la vanille. Vendredi, pour le dernier jour de sa visite sur le territoire, Naïma Moutchou échangera avec les maires de Nouvelle-Calédonie avant de rencontrer les associations d'habitants du quartier de Tindus.
Une visite de la ministre des Outre-mer qui sera bien évidemment à suivre sur Radio Rythme Bleu tout au long de la semaine prochaine. Dans l'actualité de ce samedi également, l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire à la suite du décès d'un homme de 31 ans. C'était à Marais le 17 octobre dernier alors qu'il réparait sa voiture, Michael.
Dans un communiqué publié hier soir, le procureur de la République, Yves Dupas, indique qu'il ressort des premiers éléments de l'enquête que la victime qui intervenait sur son véhicule, posé sur des cales, aurait été blessée au niveau du visage et de la gorge alors qu'elle se trouvait en position assise sur le siège conducteur. L'airbag côté conducteur se serait alors déclenché. Des témoins ont entendu une explosion. Les recherches effectuées sur le site internet du constructeur Volkswagen au moyen du numéro de série du véhicule ont permis de confirmer que le véhicule était bien concerné par la procédure de rappel de sécurité en lien avec le fonctionnement défectueux des airbags de marque Takata, indique le procureur de la République.
Il met tout en œuvre pour voir les festivaliers sourire ce week-end. Les organisateurs du Blackwood Festival ont tout donné pour faire de cette 12e édition une fête inoubliable. Des artistes punk, rock, folk, électro venant de métropole d'Australie mais aussi du territoire sont réunis depuis hier déjà sur le site de Fort-Terrain-Bas à Moindou. Ils offrent à plus de 1500 personnes un week-end musical fort. Sur place, Fabienne Hérault, la présidente de l'association Blackwoodstock, est dans l'ambiance.
Le temps est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros soleil qui nous écrase. Il y a un petit vent, il n'y a pas de pluie. Puis il y a surtout une formidable énergie. C'est extrêmement fluide. Les festivaliers alternent entre les trois scènes, puisque les groupes sont organisés en succession, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Voilà. Donc les festivaliers nous l'ont dit, c'est-à-dire qu'ils sont reconnaissants qu'on fasse le festival. Ils sont ravis d'être de retour ou ravis de découvrir. Là, ce que vous entendez derrière moi, c'est Ben Patakès, la compagnie Crunch. C'est-à-dire que peut-être je vais me déplacer, mais vous entendrez du bruit de partout parce que il y a des activités de partout. Voilà. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette.
Et la soirée ne fait que commencer. Les festivaliers auront la surprise de découvrir ce soir le groupe australien à Coffin. Ils mettront littéralement le feu au dance floor puisque le festival sera clos, comme chaque année, par la grande vache qui brûle. Elle est en bambou, bien évidemment. Il est 17h55, une première pause dans ce journal à suivre. L'actualité en métropole et dans le monde.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
17h55 sur Radio Rythme Bleu, la suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Un énième changement de méthode pour tenter de faire voter un budget. Sébastien Lecornu demande à son gouvernement de recevoir les représentants des différents groupes parlementaires afin de trouver un accord sur le projet de loi de finances et celui de la sécurité sociale. Le Premier ministre menacé une nouvelle fois par la censure avec le rejet de la taxe Zucman. C'est cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale. Les députés socialistes n'ont pas manqué de mettre la pression sur le Premier ministre à l'image du député Boris Vallaud, le président du groupe socialiste au Palais Bourbon.
Ce qui se joue est plus grand que nous. Et vous avez accepté, comme nous, l'augure du compromis, l'augure de la recherche du bien commun et de l'intérêt général. Vous faites, par votre intransigeance, je le crains, le mauvais chemin. Je vous le dis, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas, depuis que nous sommes dans cet hémicycle, le moindre compromis. Monsieur le Premier ministre, ce qui se joue ici est essentiel. Nous ne pouvons pas laisser la République sacrifiée sur l'autel de l'intransigeance de quelques-uns et du mensonge de tous les autres.
Sébastien Lecornu, qui a participé au débat cette nuit pour nous, a pris la parole après le scrutin et le rejet de la taxe Zucman. Sébastien Lecornu qui a rappelé les concessions déjà faites pour le gouvernement.
Et on ne peut pas dire d'un côté, quand il y a un 49-3, il y a un coup de force démocratique. Et lorsque l'Assemblée nationale s'est exprimée souverainement, dire il y a un coup de force démocratique parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait.
Et désormais, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, réclame en compensation de la taxe Zucman la suppression du gel des pensions de retraite ou celui des prestations sociales. Cette taxe Zucman, devenue une obsession à gauche, n'a donc pas séduit la majorité des députés. Le Rassemblement national s'y est fermement opposé. Un choix justifié par le porte-parole du RN et député de Moselle, Laurent Jacobelli.
En ne votant pas la taxe Zucman, nous avons permis à faire en sorte que la France ne s'enfonce pas encore un petit peu. Parce que la taxe Zucman, c'est quoi? Il faut dire la vérité. C'est pas simplement les riches doivent payer plus que les gens modestes. Ça, tout le monde peut l'entendre et peut le comprendre. La taxe Zucman, c'est pas ça. C'était voir votre patrimoine potentiel, pas réel, et vous taxer sur le potentiel. Par exemple, si vous avez des actions, que ces actions valent 100 euros aujourd'hui, et qu'on vous taxe sur ces 100 euros, et que demain l'action vaut 20 euros, bah, vous serez mal. Donc ça veut dire qu'on décourage les gens d'investir en France, de créer des entreprises. Moins d'entreprises et d'investissement, c'est moins de travail. Moins de travail, c'est moins de cotisations. Moins de cotisations, c'est moins d'assurance chômage. Moins de cotisations à la retraite. Donc il faut arrêter avec les lubies socialistes. Leur névrose de l'échec n'ont pas à être réglée par un poids fiscal inacceptable pour la France.
Laurent Jacobelli, invité d'Europe 1 Week-end. J'ajoute que ce matin toujours, les députés ont approuvé en commission des affaires sociales la fameuse suspension de la réforme des retraites qui a été proposée par le gouvernement. Actualité judiciaire en bref avec l'une des actions de déstabilisation attribuées à la Russie sur le sol français les plus médiatisées, l'affaire des mains rouges taguées en mai 2024 sur le mémorial de la Shoah à Paris. Le tribunal correctionnel a rendu son jugement ce matin. Les deux exécutants ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Les deux cerveaux de l'opération ont, eux, écopé de 3 ans et 4 ans de prison ferme. Le caractère antisémite des faits a été retenu par la justice. Et puis Nicolas Sarkozy pourrait sortir de prison dans 10 jours. La Cour d'appel de Paris va examiner le 10 novembre prochain la demande de remise en liberté déposée par les avocats de l'ancien président de la République. En cas d'avis favorable, il quittera sa cellule le jour même. Nicolas Sarkozy qui a reçu cette semaine la visite du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, une venue qui a poussé un collectif d'avocats à déposer plainte auprès de la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. À l'étranger, des massacres d'une cruauté à peine croyable dans l'ouest du Soudan depuis dimanche dernier. Il y a une semaine, les paramilitaires de la force de soutien rapide sont entrés dans la ville d'Al-Fasher, la dernière grande ville du Darfour qui échappait encore aux troupes du général Hamidi. Exécution sommaire, viol, déplacement forcé de civils. Les images abominables commencent à circuler sur les réseaux sociaux et sur place, les témoignages recueillis par les médecins ne laissent aucune place au doute. Écoutez Claire Sanfilippo, elle est responsable des urgences chez Médecins Sans Frontières.
Ces personnes font des récits de massacres extrêmes, nous relatent des assassinats, des violences sexuelles, notamment des viols de femmes, d'enfants, des récits de torture, de personnes battues, fouettées. Donc la situation est absolument catastrophique.
Et Claire Sanfilippo, responsable des urgences chez Médecins Sans Frontières, l'ONU évoque une situation effroyable au Darfour. Quelques mots de l'actualité dans la région Pacifique. En Australie, deux opérations de police ont abouti cette semaine à la saisie d'un très grand nombre de cigarettes de contrebande, mais aussi à l'interpellation de plusieurs criminels. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Une opération d'une semaine menée dans le nord-est du New South Wales par plusieurs services de police a permis de découvrir près de 2 millions de cigarettes illicites, 18 000 cigarettes électroniques ou vapoteuses, 74 kilos de tabac en vrac et 5 armes à feu non déclarées. 4 hommes et une femme ont été arrêtés dans le cadre de cette première opération. La police d'Australie-Occidentale a, quant à elle, inculpé deux frères domiciliés à Perth, où ils ont été trouvés en possession de plus de 4 millions de cigarettes, de 51 000 vapoteuses et de 900 kilos de tabac en vrac. Ces arrestations n'ont pas tempéré les ardeurs des gangs de criminels qui se livrent à une guerre sans merci pour contrôler le lucratif marché des cigarettes et vapoteuses de contrebande. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h02, on marque une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est 18h02 sur votre radio, l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football. Les places demain matin au début de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1 et les trois clubs en tête du championnat seront engagés, Mickaël Juneski.
Exactement, ça commencera par la rencontre du leader, le Paris Saint-Germain face à Nice, coup d'envoi à 3h. Ensuite, le dauphin du PSG, Monaco, fera face à l'autre club de la capitale, le promu du Paris FC, à partir de 5h. Et à 7h, cette fois, c'est l'Olympique de Marseille, 3e, qui sera sur la pelouse d'Auxerre. Je rappelle qu'au classement, le PSG ne compte qu'un point d'avance sur Monaco et seulement 2 points d'avance sur Marseille, mais aussi Strasbourg, Lyon et Lens, le 6e, tous à égalité et seulement départagés par le goal average. Autant dire que les points valent déjà cher pour ceux qui veulent rester dans le sillage du PSG jusqu'en fin de saison. Lundi matin, à suivre encore les matchs Rennes-Strasbourg, Toulouse-Le Havre, Lille-Angers, Lens-Lorient, Nantes-Metz et Brest-Lyon.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le rugby avec ce week-end, la 9e journée du Top 14. Le championnat de France élite, les rencontres se joueront demain et lundi matin. Pour nous, à suivre demain, Toulon, Lyon, Bayonne, Montauban, Castres, Union Bordeaux-Bègles, Montpellier, Clermont, Pau, Perpignan et puis surtout Toulouse, Stade Français, match de prestige car le leader du championnat accueillera son dauphin. Des Parisiens absolument métamorphosés par rapport à la saison dernière, Christopher Filloc pour Europe 1.
Miraculé et sauvé de la relégation l'an passé lors de la dernière journée de championnat, le Stade français a retrouvé son statut d'antan. Sékou Makalou, le troisième ligne du Stade français.
On a appris de nos erreurs. L'an dernier, il nous manquait un ou deux points pour être un peu plus tranquille. Et là, on sait que n'importe quel match, on doit prendre des points.
Symbole de ce renouveau cette saison, le Stade français a marqué 235 points après 8 rencontres contre seulement 167 l'an passé. Le tout avec des victoires de prestige face à Bordeaux et La Rochelle, des cadors du championnat. Synonyme d'une confiance retrouvée, Jérémy Vard, le centre du Stade français.
On n'a pas changé beaucoup de choses. Quand tu vois notre conquête pour la première partie de la saison, c'est vraiment un domaine fort pour nous. On a trouvé un très bon balance, c'est important de continuer de faire ça.
Un déplacement à Toulouse peut-être au meilleur des moments puisque ce ne sont pas moins de 10 joueurs toulousains qui ont été retenus par Fabien Galthié pour la tournée d'automne du 15 de France. Mais Toulouse reste Toulouse et le défi s'annonce malgré tout immense pour Paris qui n'a plus gagné en terre toulousaine depuis 2022.
Christopher Filoc du service des sports d'Europe 1. Cette 9e journée du top 14 se terminera lundi matin pour nous avec la rencontre entre La Rochelle et le Racing 92. On passe au tennis, Mickaël, avec ce soir les demi-finales du Masters 1000 de Paris.
Et le Canadien Félix Auger-Aliassime sera opposé au Kazakh Alexander Bublik à partir de 00h30 pour nous. Une rencontre qui sera suivie d'un beau duel entre le numéro 2 mondial, l'Italien Yannick Sinner, et le troisième joueur à l'ATP, l'Allemand Alexander Zverev. Sinner fait figure de favori pour le titre à 2 jours de la finale.
Le sport côté calédonien avec du cyclisme sur piste en métropole et des jeunes qui brillent au championnat de France Espoir.
Dans une compétition qui se déroule à Loudéac en Bretagne, Chacharet et Enzo Martoreggio ont respectivement décroché l'argent et le bronze sur la vitesse individuelle moins de 17 la nuit dernière pour nous. Nous avons fait le point avec Florian Barquette, le cadre technique territorial sur place.
Donc une très belle journée pour nous parce qu'on a deux Calédoniens qui font deuxième et troisième à la vitesse individuelle U17. Donc à savoir Chad Charret qui va chercher la deuxième place et Enzo Martoreggio la troisième place. C'était une longue compétition qui avait débuté hier avec des qualifications, puis des 16e et des quarts de finale en une manche gagnante. Aujourd'hui, il y a eu les demi-finales et les finales. Donc il y avait Chad dans la grande finale et Enzo dans la petite finale pour la troisième place. Et il vous réussit à décrocher ces deux médailles, ce qui est extraordinaire de mettre de Calédoniens sur un podium du chemin de France quand on sait le nombre de licenciés et tous les pratiquants sur la métropole. Donc voilà, une très belle journée pour la Nouvelle-Calédonie et il reste encore d'autres jours pour aller encore faire mieux et pourquoi pas chercher d'autres médailles, voir le titre sur les prochaines épreuves. Également, comme beau résultat de la journée, Louis Chavitz qui termine 4e du Keirin après avoir terminé à la 5e place le premier jour. Elle monte en puissance pour sa dernière épreuve qui est le kilomètre départ arrêté demain où elle ambitionne de faire de très bonnes places vu que c'est son épreuve favorite. Donc bravo à elle.
Les championnats de France Espoir de cyclisme sur piste se poursuivent tout le week-end au vélodrome de Loudéac en Bretagne.
Et sur le territoire, Mickaël, une épreuve d'un nouveau genre, le Jump Swim Run de Dumbéa se disputait ce matin.
Une course avec enchaînement de course à pied, de natation, un saut dans la Dumbéa pour couronner le tout à chaque tour sur un parcours donc de 3 km, une addition d'1,5 km de course à pied, 500 mètres de natation et encore 1 km de course à pied. À ce petit jeu, c'est Jonathan Vinitz du club de la Sport Team qui s'est imposé. Il est le seul à avoir réalisé 9 tours du parcours dans le délai imparti.
Beaucoup de plaisir, hein. C'était une belle épreuve, une formule qu'on ne connaît pas trop, avec des départs qui s'accélèrent. Donc il y avait pas mal de stratégies, tout le monde jouait un peu sa stratégie perso, donc c'était sympa. Et après ça a commencé à devenir de plus en plus dur avec la chaleur et puis le niveau à côté, là, c'était une belle course. Donc super quoi. On se découvre aussi un peu au fur et à mesure de l'épreuve, on essaie d'en garder le plus possible pour les derniers tours. Si on est un petit peu plus nageur, on garde un peu plus en natation, si on est un peu plus coureur, on s'économise en course. Puis après il y avait les ravitaux là, bien gérer là les temps de pause, mais voilà, super quoi. C'était top.
Un format faisant alterner donc course à pied et natation et surtout avec le chrono qui jouait le maître de l'épreuve. Les participants ont apprécié selon Hélène Legrain, elle est présidente du club de la Estrie Mont d'Or, organisatrice de cette épreuve.
On avait une boucle qui faisait 3 km et à chaque tour le temps était dégressif. On commençait à 35 minutes, donc très accessible pour les sportifs, et le dernier tour se terminait à 16 minutes. Une bonne partie des concurrents, ils ont quand même fait 5 tours de 3 km, donc 18 km de natation et de course à pied, donc une très belle course à eux, ils sont tous ravis et nous aussi on est très contents. Là ça a vraiment plu, oui, l'année prochaine on va reproposer cette course au même endroit, avec une belle rivière et une belle portion de course à pied qui alterne sous de la forêt, donc on est protégé par le soleil, et ensuite une partie un peu plus découverte, on est au soleil mais après on se jette à l'eau puisque ça s'appelle le Jump Swim and Run, puisque le principe c'est qu'on se jette à l'eau, il y a un petit saut de 1 à 2 mètres de hauteur pour les concurrents.
La Estrie Mandor qui organisait donc cet événement. Plus d'une soixantaine de participants étaient en lice pour ce premier Jump Swim Run.
Allez, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Jennifer.
Merci Lionel. Vigilance jaune, forte pluie orage, Lionel, sur l'ensemble de la Grande Terre pour des averses orageuses qui peuvent encore se produire en soirée, mais surtout dimanche après-midi. Cette nuit, l'ouest et le relief retrouveront un ciel bien étoilé avec quelques averses résiduelles en soirée, parfois encore marquées en tout début de nuit. Le ciel sera plus chargé sur la côte est et la pointe nord avec des averses parfois fortes. Aux îles, alternance entre belles éclaircies et quelques ondées isolées. Le vent d'est à sud-est de 10 à 15 nœuds faiblira autour de 10 nœuds, voire même 5 nœuds sur l'ouest. Les températures minimales perdront 1 à 2 degrés, de 18 à 24 degrés. Un aperçu pour demain matin. Sur l'ouest, le soleil est bien présent, surtout en début de matinée. Sur les autres régions, il doit composer avec quelques passages de nuages et d'averses. Le vent d'est à sud-est est proche de 10 nœuds, localement variable faible sur l'ouest en début de journée. Et on termine avec demain après-midi, de gros nuages bourgeonneront sur la chaîne et donneront de bonnes averses, parfois orageuses, qui déborderont localement vers les côtes, plutôt sur le nord de la Grande Terre. Sur les îles, le ciel est passagèrement nuageux avec quelques averses isolées, plus marquées sous le vent de marée et l'Ifou. Le vent, lui, se maintiendra est à sud-est autour de 10 nœuds et les températures maximales resteront assez stables, entre 27 et 31 degrés pour demain après-midi, Lionel.